Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
Salut à tous et bienvenue dans Motors, c'est l'émission de tous les sports méca évidemment sur RMC. On salue Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Comment vas-tu?
Eh ben je vais merveilleusement bien. Écoute, quand un Français est en pôle dans la plus belle des catégories moto, tu penses bien que je suis collé au plafond.
Et ça arrive pas tous les 4 matins, effectivement. Bah justement, tu me déroules le tapis rouge puisqu'au sommaire en ce dimanche 5 mai 2019, on va parler évidemment en une du MotoGP à Jerez de la Frontera en Espagne. Départ à 14h du Grand Prix avec donc un Français en pole et c'est le plus jeune poleman de l'histoire de la catégorie reine, Fabio Quartararo. On va revenir ensemble sur son exploit dans une seconde. On sera également en ligne avec Claude Michi, l'organisateur du Grand Prix de France qui se déroulera au Mans dans 15 jours. 13h25, Lucas Vinois de la rédaction RMC Sport nous rejoindra. On plongera un œil dans le rétro pour revenir sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan en Formule 1 évidemment et notamment sur la victoire du Finlandais Valtteri Bottas. Domination des Mercedes depuis le début de la saison. 4 doublés en 4 courses. Est-ce que ça va se poursuivre? On en débattra. Et puis 13h45, Radio Paddock, toutes les infos de la semaine et le point notamment sur les 6 heures de Spa en endurance auto. C'est parti pour Motors.
RMC Motors.
Le briefing. Ouais, le briefing dans un instant. Juste l'occasion pour moi de vous rappeler que ce week-end, on vous offre vos places hein, pour le Grand Prix de moto au Mans. Du 17 au 19 mai prochain, vous profitez en illimité de la fan zone, des concerts, de tous les shows mécaniques, vos places en tribune pour ne rien louper du programme de 3 jours du Grand Prix de moto du Mans. Et pour remporter vos places, vous envoyez Motors, M-O-T-O-R-S, au 7-32-16. Et c'est donc parti pour le briefing. Toi, tu les as déjà, tes places, Jean-Luc, je suis sûr, pour le Grand Prix de France.
Oh, depuis longtemps. Depuis très très longtemps, je ne rate jamais le Grand Prix de France moto, évidemment. Au Mans, on va en parler avec Claude Michi dans un instant, mais c'est vrai que ça va être un spectacle formidable, et puis on ne s'attendait pas, disons-le clairement, à ce qu'un Français, en l'occurrence Fabio, soit capable de décrocher une pole aussitôt dans la saison. Bah voilà, c'est fait.
Mais dis-moi, il y avait un Français qui était en pole au Mans l'année dernière, c'était pas un certain Johan Zarco?
Oui, et tu vois, on en parle et on ne va pas l'oublier, Johan, parce que, et oui, tu as raison. Il se bat, malheureusement, bon, il a pas, on le sait pour le moment, la machine qui lui permet de briller, alors qu'à l'instant, Lorenzo Baldassari remporte la course de Moto2. Tu vois, je suis connecté surtout et ça a été une course à émotion parce qu'il y a eu un gros crash tout à l'heure au premier départ avec plusieurs pilotes par terre. Bon, j'en reviens à ce que tu disais. Ben, Johan Zarco, il travaille sur sa KTM. On sait que la machine ne lui convient pas pour le moment. Son ambition, c'est d'entrer d'abord dans les points, dans les 15 premiers et puis dans le top 10. Peut-être avec la surmotivation qu'on lui connaît lors du Grand Prix de France. Mais tu as raison, l'an dernier, il était en pole. C'est vrai, il était parti en tête du Grand Prix.
Avant d'évoquer le Grand Prix de France, et d'ailleurs, Claude Michi sera dans un instant avec nous en direct, hein, le promoteur justement du Grand Prix de France moto au Mans qui se déroulera dans 15 jours. Un mot quand même de Fabio Quartararo, tu le disais en préambule, Jean-Luc, c'est exceptionnel, plus jeune poleman de l'histoire du MotoGP pour le Grand Prix qui s'élancera tout à l'heure en Espagne de Jerez de la Frontera. Le jeune Français a fait très 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 fort.
Et oui, parce qu'il a à peine 20 ans, hein. Il a eu 20 ans le 20 avril dernier, donc pour quelques semaines, il fait mieux que Marc Marquez. Quand on connaît le palmarès de Marc Marquez, la référence est incroyable. C'est lui qui décroche donc la pole dans des conditions exceptionnelles avec une machine privée, une Yamaha d'un nouveau team devant son équipier. Il n'a pas commis d'erreur hormis il a calé sur la grille de départ lors du premier Grand Prix, tu vois, c'était vraiment rien du tout, mais depuis il s'est repris, il termine régulièrement dans les points. Là, il a devancé Franco Morbidelli, qui est son équipier au sein de ce team Petronas Yamaha. Écoute, c'est un exploit qu'il a déjà réalisé. Puis alors, moi, ce qui m'impressionne le plus, et je touche du bois, tu imagines bien en le disant, c'est qu'il ne chute pas, il ne commet pas d'erreur. Sa progression est extrêmement régulière.
Allez, on va également parler de la grille de départ de ce Grand Prix d'Espagne, justement, Jean-Luc, que tu peux nous dérouler.
Oui, Fabio Quartararo, donc poleman de ce Grand Prix. On sait que en Grand Prix moto, il y a 3 pilotes sur la première ligne. Il aura à ses côtés son équipier, je viens de le rappeler, Franco Morbidelli, dont on connaît le talent, le pilote italien de la même équipe, donc une Yamaha. Et puis Marc Marquez, à qui la pole a échappé. Pourtant, évidemment, c'est l'un des dieux de Jerez de la Frontera sur son terrain, devant son public, avec la Honda, qui ne doit concéder. Enfin, il est sur la première ligne, mais quand même, hein, et il a rendu hommage d'ailleurs, très honnêtement, à Quartararo. Deuxième ligne, on aura Andrea Dovizioso avec sa Ducati, bien sûr, et puis la première Yamaha officielle, je dirais, devancée par les deux privés, celle de Maverick Vinales. Il y aura Cal Crutchlow, le britannique de chez Honda. Troisième ligne, Danilo Petrucci, Nakagami et Alex Rins. Quatrième ligne, avec Francesco Bagnaia, Jorge Lorenzo et Joan Mir. Et tu vas me dire, et alors, où se trouve Valentino Rossi?
Eh oui.
Et ben oui, ben Valentino, il est beaucoup plus loin, puisqu'il a seulement le 15e temps.
Ah oui.
C'est absolument incroyable. Il ne parvient pas, lui, à mettre au point sa Yamaha. Et quand on lui a posé des questions, en lui disant, mais comment se fait-il que les Yamaha privés soient devant les Yamaha d'usine? Il a dit, ben je sais pas, ils sont peut-être meilleurs pilotes que moi, avec un pauvre sourire. En tout cas, pour le moment, c'est son équipier Vinales qui s'en sort mieux que Valentino Rossi.
Très bien. Et pour continuer à parler de MotoGP au-delà de ce Grand Prix, hein, dont le départ sera donné à 14h et qu'on vous fera vivre en direct sur RMC. On va se projeter vers le Grand Prix de France, donc au Mans. Le Grand Prix de France moto, ce sera dans 15 jours. Claude Michy, justement, le promoteur, l'organisateur de ce Grand Prix de France, est avec nous en direct. Bonjour, Claude Michy.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Je vous laisse entre de bonnes mains, même si je reste là, évidemment, pour l'interview, celle de Jean-Luc Roy.
Comment ça, c'est pas sûr, Claude? Salut. Je ne peux être que gentil. Que veux-tu que je te dise? Tu as assisté à cette pole à Jerez de Fabio Quartararo. Je sais que tu le suis évidemment depuis longtemps. Tu l'as aidé à grimper tous les échelons. Il connaît bien les circuits espagnols. Il s'est illustré. Il a remporté deux fois le titre là-bas. Mais quand même, est-ce que tu t'attendais tout simplement à ce qu'il soit capable de décrocher une pole aussitôt dans la saison?
Écoute, il était très à l'aise, hein. Moi je suis revenu au Mans hier soir, là. Il était très à l'aise, on a déjeuné ensemble vendredi, avec son père, avec Tom, avec Eric Mahé, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a aucune pression. Alors je ne sais pas si la pole qu'il a fait va lui en donner un peu, mais il est très détendu, il fait pas de faute, comme tu l'as dit, il tombe pas depuis les essais à ses pentes, donc un jour ça arrivera, on va pas lui souhaiter, mais ça fait partie de ce sport. Mais il est facile, c'est ce qui est totalement étonnant pour beaucoup de monde, mais faut pas oublier que dans tout son début de carrière en Espagne, il avait été royal. Après, il a eu un petit coup de moins bien parce que la lumière était arrivée peut-être un peu trop vite quand il est arrivé en Moto 3. Et il a perdu un peu, les bases de référence de ce qu'est un sportif de haut niveau. Mais il s'est bien refait et aujourd'hui, le talent, il l'a, tout le monde le sait. Après,
oui, oui.
L'exprimer et en réalité, La Yamaha, Johann Zarco a montré ça l'année dernière aussi, est une machine qui, je dirais pas qui est facile, hein, c'est pas du tout ça, mais qui est, je dirais, qui est moins compliquée peut-être que d'autres, que la KTM par exemple aujourd'hui.
C'est certain.
Ce garçon, ce qu'il a fait hier, c'est exceptionnel.
Ah oui, on espère que la course, on s'est échangé quelques SMS.
La course,
juste après,
autre chose. Mais ça peut être exceptionnel aussi.
Oui. Bah écoute, de toute manière, s'il reste sur ses roues, tu vois, j'ose le dire, peut-être que le podium est tout simplement envisageable. Bon, la course va être évidemment longue, et puis il y a un certain Marc Marquez, on le sait bien. Oui. Ça me fait la transition avec le MotoGP, puis c'est peut-être la meilleure promo dont tu pouvais disposer.
On l'a organisé, hein.
Oui, ah ben c'est super. Là, tu pouvais pas faire mieux. On rappelle quand même que le Grand Prix de France Moto l'an dernier avait rassemblé le jour de la course plus de 105 000 spectateurs. C'est quand même incroyable. C'est la première épreuve de sport moto en France. Il faut le rappeler aussi, et l'une des plus grandes épreuves du sport tout court, Claude.
Oui, effectivement, les motards et la communauté motarde et s'est élargie un peu au niveau du Grand Prix. Et effectivement, on a la chance d'avoir une très belle affluence, un bon public, des gens, des vrais supporters, des gens qui se tiennent bien. C'est important de le dire parce que souvent l'image du sport mécanique et des motards est des fois un peu écornée par des gens qui connaissent pas, mais qui viennent voir et après ils comprendront comment ça se passe.
Oui, je crois que ça vaut le coup justement, et quelle plus belle occasion que ce Grand Prix de France. Je rappelle le podium l'an dernier, c'était Marquez qui l'avait emporté devant Danilo Petrucci et sa Ducati, qui se débrouille pas mal à RRS, et Valentino Rossi quand même, le héros évidemment, qui court toujours après son 10e titre mondial en moto, puisque on sait quand même que devant il y a encore Giacomo Agustini. D'ailleurs, ça me fait la transition aussi, Claude, parce que je crois que tu vas évoquer effectivement le fait que le Grand Prix de France moto se déroule depuis longtemps, et il y aura de grands anciens, dont Giacomo Agostini.
Oui, il faut parler de l'histoire parce que c'est la référence, mais je fais juste un petit clin d'œil. La pole position l'an dernier, c'était Joan Zarco.
Oui, on l'a rappelé.
Position. Voilà. Et donc, oui, effectivement, le premier Grand Prix a eu lieu en 69, ici sur le circuit Bugatti. Donc, on fait les 50 ans avec, on a la chance d'avoir les quatre machines qui ont gagné à cette époque, plus le sidecar. Et on évoquera à travers ces 50 ans, on a 25 machines de collection qui viendront aussi être exposées. On essaye de... L'histoire est essentielle hein, dans beaucoup de choses et donc il faut pas oublier ce qui s'est passé et toutes les évolutions qu'il y a eu. Et effectivement, Giacomo Agosti sera là, puisqu'il avait gagné en 69. J'étais avec lui là à Jerez et il est très content de venir. Il sera là le vendredi et le samedi et on va rendre aussi hommage à ce champion qui est totalement étonnant parce que il a une santé d'enfer, hein, 75 ans.
Ah, il est en pleine forme, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et ça nous donne de l'espoir. L'idée c'est toujours aussi de permettre au public de vivre des choses le plus large possible, qui passe un bon week-end. On essaye depuis très longtemps la gratuité jusqu'à 16 ans parce que je pense qu'il faut amener les jeunes au spectacle sportif et donc leur faciliter l'accès avec leurs parents. Ça fait partie des choses qui sont... En plus, on a 15 écrans géants on peut voir toute la course. On essaye vraiment de donner le maximum pour que tout le monde... passe un bon moment, que ce soit des fan zones, concerts. Je veux dire, c'est une vie globale pendant tout ce week-end. Et ça, c'est important d'essayer de satisfaire le public et de lui donner des choses même auxquelles il n'a pas accès. Par exemple, ils vont avoir la possibilité de scanner un QR code et ils vont avoir tout un tas de vidéos exclusives, ce qu'est la clinique mobile, ce qu'est la direction de comment s'installe le paddock, etc. Parce que je pense qu'il faut essayer de... L'organisateur doit être aussi performant que les pilotes. C'est un vrai sujet. Et donc, d'essayer de donner du plaisir à chacun. Bon, alors, on n'en réussit jamais totalement, peut-être, mais au moins, on fait le maxi.
Est-ce que tu as commandé le soleil également? Parce que c'est un élément important, évidemment.
Au moment, Jean-Luc, c'est Dieu qui décide.
Bon, on parlait de Giacomo Agostini. On avait eu le plaisir, évidemment, et l'honneur de l'avoir dans cette émission, en direct depuis Charade, hein, évidemment, grâce à toi, Claude. Et c'était un vrai bonheur de commencer par lui et Phil Reed. Donc là aussi, quelle référence. Alors, si on parle justement de ces batailles, on voit que c'est extrêmement ouvert cette année, ce championnat du monde de Grand Prix moto, puisque les pilotes sont très serrés après les premières épreuves. On a vu Marquez justement se louper. Alors, excès de confiance, comment tu interprètes ça? Bon, en plus, il a un enthousiasme incroyable, j'allais presque dire communicatif, Marc Marquez. Et pour le moment, il n'est que quatrième du championnat du monde derrière Dovizioso avec sa Ducati, Valentino Rossi qui est toujours là, qui est toujours en lice pour le titre, et puis le vainqueur surprise, Alex Rins du dernier Grand Prix. Alors, on revient sur Marquez, ça veut dire que même les héros sont faillibles.
Je pense qu'il a fait une toute petite erreur de trajectoire, mais à 15 cm près à Austin. Et bon, là, au warm-up, il a 2-3 alertes encore, là, aujourd'hui. Mais il pousse fort, hein. Donc, je pense qu'il faut se méfier des Ducati encore aujourd'hui, hein. Dovizioso est là. Suzuki, Valentino Rossi, toujours se méfier, même s'il est loin, on ne sait jamais. La course, c'est la course.
En course, il est toujours très fort.
C'est vraiment un autre sujet. Mais ce qui est fabuleux, c'est qu'ils sont 12 ou 14 dans la seconde aux essais, donc ça promet encore une course fabuleuse. Il ne faut pas se faire d'illusions.
Oui, ça c'est tout à fait exceptionnel et on le rappelle effectivement à chaque fois quand on voit que dans le cadre effectivement du Moto 2. Écoute, je l'ai sous les yeux, c'est facile, hein. Il y avait 634 millièmes entre Joan Mir, le 12e, et Fabio Quartararo, le poleman. On imagine 12 pilotes en 6 dixièmes. C'est proprement ahurissant. Tu parlais du warm-up il y a un instant. On va préciser, parce que ça, c'est un élément peut-être important pour le Grand Prix tout à l'heure, que Marquez a signé le meilleur temps devant Vignales et Mir. Fabio Quartararo est un bon 7e. On va dire qu'il a peut-être pas trop forcé son talent dans le warm-up.
Non, je pense qu'il a fait ce que je pense qu'il se pose pas de questions, donc il a fait ce qu'il pensait être utile. Pendant les essais, ils ont essayé toutes les formules de pneumatiques existantes. Bon, la piste là est peut-être un peu plus chaude qu'hier, donc ça va peut-être modifier un peu les choix de chacun. mais bon, c'est une course, hein, donc tout est possible. Et donc, il est face à l'expérience, des grosses expériences.
Hein, ouais.
Donc, mais bon,
mais il va apprendre. Il va apprendre.
Les deux Petronas, les deux, ce team malaisien là de avec le circuit de Sepang et Petronas, c'est Yamaha marche très très bien. Hein, donc ouais. Les deux. Et effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est dans le team officiel, il se pose des questions. Hein, c'est,
bien sûr.
Voilà,
alors puisque que, voilà. Je disais, tu as déjeuné avec lui, tu l'as vu longuement vendredi et tu le connais par cœur. Tu penses justement qu'il va, il va profiter de l'expérience des pilotes de talent qui l'entourent pour précisément la mettre à profit. Alors c'est vrai que ça va être chaud avec son équipier Franco Morbidelli, qui évidemment tordait un peu le nez, hein, de pas avoir lui décroché la pole devant Marquez. Mais on va dire que les premiers tours vont être radicaux. Il y a beaucoup à apprendre pour Fabio là.
Oui, mais. Moi, vendredi, j'ai joué une grosse boîte de chocolat qu'il était sur le podium. Donc, oui,
non, je te connais alors.
Qui, mais dès vendredi. Donc, après, quelle marche, on peut toujours espérer. Moi, je pense qu'il a la capacité de surprendre jusqu'au bout. Mais bon, c'est la course. Il y a des très solides. Hein, donc, il faut aussi un peu de temps, des fois, à l'apprentissage. Mais des fois, la jeunesse surprend totalement, quoi.
Merci Claude Michi d'avoir été en direct sur RMC. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Donc Claude Michi, promoteur du Grand Prix de France Moto qui se déroulera au Mans dans une quinzaine de jours, dans 15 jours tout pile d'ailleurs. En attendant, nous on va s'intéresser quand même au Grand Prix de Jerez de la Frontera. Ça sera à partir de 14h en direct sur RMC avec la pole. Faut-il encore une fois le rappeler de Fabio Quartararo.
RMC Motors Arnaud Souk.
Eh oui, jusqu'à 14h. Excuse-moi Jean-Luc, j'ai squeezé ton nom dans le générique, mais tu es bel et bien là.
Mais
hein.
Je t'en prie.
Bon,
je suis là.
Tu es le pilier de cette émission. Indéboulonnable. Lyon joue face à l'Union Bordeaux-Bègles. Ça, c'est du rugby. Est-ce que le score à la mi-temps est validé, Edouard?
Ouais, 14-3. Tu avais bien vu. L'essai n'a pas été validé pour André Kroot. Le dernier essai non validé par la vidéo. Imaginez-vous, en 3 minutes, 3 essais pour le Loup. Invalidé par la vidéo. Du coup, on en reste à 2 essais à 0. 14-3 pour le Loup à la mi-temps.
Très bien. Et on se retrouve tout à l'heure pour la deuxième période de cette rencontre de la 24e journée du top 14 de rugby. Je vous rappelle que cet après-midi à 16h50, il y aura le match de clôture entre le Racing 92 et le Stade Français. Victoire hier à noter du Stade Toulousain, de l'AS Clermont Auvergne et de La Rochelle ou encore de Montpellier. Allez, on continue. Motors.
RMC Motors. Dans le rétro.
Et Jean-Luc, je te propose d'accueillir notre commentateur vedette de la Formule 1 sur RMC. Bonjour Lucas Vinois.
Salut Arnaud, salut Jean-Luc, bonjour à tous.
Salut la star.
Messieurs, vous vouliez, je crois, revenir en long, en large et en travers sur le dernier Grand Prix, justement le Grand Prix d'Azerbaïdjan. On va se projeter également vers le Grand Prix d'Espagne la semaine prochaine. Le Grand Prix d'Azerbaïdjan donc a encore été dominé largement par les Mercedes. Toi, ça t'interpellait justement, Jean-Luc.
Oui, c'est déjà un début de saison absolument incroyable, unique même, on peut le dire, dans l'histoire du championnat du monde, avec 4 doublés en 4 Grands Prix. C'était pas prévu comme ça au départ, c'est le moins qu'on puisse dire. On pensait que Ferrari donnerait beaucoup plus de fil à retordre, et puis de fil en aiguille, d'abord parce que Mercedes en course est toujours là, ne commet pas d'erreur, contrairement malheureusement à la Scuderia, ne connaît pas de défaillance mécanique, et puis Valtteri Bottas, je crois qu'on peut le dire après 4 Grands Prix, s'est hissé maintenant au niveau de Lewis Hamilton. Ça veut dire qu'on a, à défaut d'autre chose, mais j'espère qu'évidemment d'autres vont venir s'en mêler, on va déjà avoir un sacré baston entre ces deux-là, et ça c'est plutôt intéressant.
Sacré baston, effectivement, Lucas, tu confirmes?
Oui, c'est de toute façon c'est ce qu'on peut espérer jusqu'au bout de la saison. Hein. Si Ferrari n'est pas capable de revenir aux avant-postes, en tout cas d'aller concurrencer Mercedes, il faut que Valtteri Bottas et Lewis Hamilton se tirent la bourre, comme c'était le cas entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton. C'est comme ça qu'on aura du spectacle. Et en plus, il y a quelques statistiques qui font un petit peu peur et qui montrent que cette domination pourrait durer. C'est, comme le disait Jean-Luc, 4 doublés en début de saison, c'est du jamais vu. Et le record de Mercedes est de 12 doublés, c'était en 2015, et ça fait 16 Grands Prix de suite que les Mercedes finissent à chaque fois, et notamment dans les points. Donc on connaît Mercedes, on sait que c'est une écurie qui est quasiment infaillible, qui ne commet quasiment pas d'erreur. Donc vu le retard accumulé par Ferrari, ce sera très très compliqué pour les rouges de revenir sur les flèches d'argent.
Alors toutefois, on peut quand même s'interroger sur la capacité de Charles Leclerc à pourquoi pas remporter sa première victoire en Grand Prix cette saison, et puis on l'espère le plus tôt possible pour le monégasque. On va pas dire franco-monégasque parce qu'il est vraiment monégasque, mais c'est vrai qu'il est quand même très très français aussi sur les bords.
Oui, écoute, il n'en est qu'à 25 Grands Prix hein, pour le moment. Il a déjà décroché une pole qui est venue tôt, qui est venue lors du Grand Prix de Bahreïn. Un problème mécanique l'a empêché de récolter ce qu'il méritait, c'est-à-dire déjà une victoire. Alors c'est assez amusant, en fonction, et Lucas doit dévorer ça évidemment comme je le fais, en fonction des déclarations des uns ou des autres, même chez Ferrari, j'ai surpris Mattia Binotto lors du dernier Grand Prix, disant que si Charles n'avait pas commis cette erreur, bon, on va pas revenir sans arrêt là-dessus, puisqu'il a tout assumé. Là aussi, lui, il cherche pas d'erreur. Hein. Ça, c'est déjà la marque des très grands pilotes. Mmh. Ils ne cherchent pas d'excuses. Ils cherchent pas à se défausser sur ceci ou cela. Ils cherchent pas à dire, bah oui, j'avais les médiums et j'ai essayé ceci. Il dit, c'est de ma faute. J'étais nul. Je me suis raté. Je paye l'addition et l'écurie aussi. Je ne le ferai plus. Et on peut lui faire confiance. Donc, j'en reviens à ça. On a l'impression que même chez Mercedes, alors c'est peut-être pour attiser également un débat interne chez Ferrari, le principal péril, finalement, il viendrait déjà plutôt de Charles Leclerc que de Seb Vettel, 4 fois champion du monde. C'est quand même étonnant, tu crois pas, Lucas?
Oui, c'est vrai. Après, il y a une certaine logique dans tout ça, puisque on sait que c'est Charles Leclerc qui avait réalisé à chaque fois le meilleur temps des 3 séances, même si la première séance d'essai libre avait été avortée en raison du problème de George Russell sur sa Williams et la destruction du châssis par cette fameuse bouche d'égout. Mais oui, on a presque l'impression qu'un adversaire a été désigné, en tout cas de la part de Mercedes, et qu'il s'agit plus de Charles Leclerc que de Sébastien Vettel. Est-ce que c'est pour piquer l'Allemand? Est-ce que c'est pour justement mettre la tête sous l'eau du quadruple champion du monde? Ça, on le sait pas, mais c'est vrai que les débuts de Charles Leclerc sont tonitruants, à la hauteur de Sébastien Vettel, même s'il est derrière au championnat du monde. Vettel, on le sait, a bénéficié de consignes d'écurie. Donc oui, en tout cas, Lewis Hamilton, pour ce qui est du Grand Prix d'Azerbaïdjan, avait désigné Charles Leclerc comme son rival principal.
Très bien, messieurs, est-ce qu'on peut parler également des autres Français, pourquoi pas notamment de Pierre Gasly sur la bonne voie après sa remontée justement à Bakou, Jean-Luc?
Il a fait du super boulot et on en est absolument ravis, parce que Pierre n'était évidemment pas à son niveau lors des 3 premiers Grands Prix pour diverses raisons qu'on va pas énumérer ici. On en a déjà longuement parlé lors des couvertures en direct et même dans Motors. Là, malheureusement, il a été frappé par 3 pénalités. Là, on pouvait pas lui taper plus fort sur la tête. Il est parti des stands, le dernier. Il est remonté 6e avec une stratégie décalée. La même d'ailleurs que Charles Leclerc. Et ce qui est très probant, c'est que ses temps en course avec ses pneumatiques qui étaient à bout de potentiel était au moins égaux, sinon meilleurs en toute fin, à ceux réalisés par Charles Leclerc avec la même monte pneumatique et une Ferrari. Donc ça veut dire que si là aussi un problème technique n'avait pas privé Charles du drapeau à damier, bah il terminait 6e, ça c'est une évidence, et il a déjà fait la preuve de sa vélocité, et espérons que du côté de Red Bull on a bien noté tout ça, Lucas.
Oui, non mais de toute façon Red Bull l'a dit, l'état-major de Red Bull, que ce soit Helmut Marko ou encore Christian Horner, ont souligné la très très belle performance de Pierre Gasly en Azerbaïdjan, et au final l'abandon ce n'est pas très très grave, et lui le savait. Il est venu en zone mixte, il s'est présenté, il était plutôt souriant, très content de ce qu'il avait fait. Il sait qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer, très naturellement, pour se rapprocher de Max Verstappen, qui est peut-être aujourd'hui ce qui se fait de mieux en Formule 1, et notamment dans l'exploitation des pneumatiques. Et donc voilà, Pierre Gasly savait qu'il s'était bien rapproché de lui, qu'il fallait continuer à travailler, mais qu'il était sur la bonne voie, et on a l'impression qu'il a découvert quelques clés. Et il sent qu'il est en train de trouver justement cette solution qu'il a eu du mal à trouver précédemment, et que voilà, il est sur la bonne voie. Là, ça va être le retour en Europe, en Espagne, sur des circuits où il a roulé énormément depuis ses plus jeunes années. Donc voilà, c'est vraiment le bon moment pour mettre toutes les choses ensemble et aller peut-être, pourquoi pas, battre Max Verstappen en qualification et en course. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Le retour en Europe, justement, t'en parles, Lucas, ça change quelque chose dans le paddock, ça?
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'évolutions qui arrivent, et puis vous savez, Bakou, la Chine, tout ça, c'est des circuits, quand vous êtes un jeune pilote, vous n'avez pas beaucoup roulé sur ces circuits-là, alors que quand vous avez écumé tous les championnats, que ce soit de karting, de monoplace, vous avez roulé toute votre jeunesse en Espagne. Le circuit de Barcelone est un circuit extrêmement emprunté par tous les championnats qui existent. Donc vous avez plus de repères, vous êtes plus en confiance, vous connaissez mieux les lieux, et voilà, tout cet ensemble de petites choses font que vous vous sentez plus à l'aise, et dans un moment où la confiance n'est pas forcément au beau fixe, c'est toujours rassurant.
Tu confirmes, Jean-Luc?
Ah ben je confirme totalement, bien évidemment. Je vais rappeler juste rapidement le classement général provisoire du championnat du monde après les quatre premiers grands prix. Bottas et Hamilton dans un mouchoir, hein, 87 points pour Bottas, ça prouve qu'il résiste et cette année il est décidé à aller le chercher ce titre. Mm-hmm. Hamilton 86 et puis derrière un peu esselé Vettel, et Lucas vient de le rappeler, il a bénéficié des consignes évidemment d'usine à deux reprises chez Ferrari quand même, il faut le rappeler, donc 52 points. Verstappen est juste derrière avec 51 et ensuite Charles Leclerc 47, ensuite on déroule et un peu loin mais il est là quand même, on a Perez avec 13 points et Gasly également, donc ça va le faire
en tout cas, c'est ce qu'on souhaite et on suivra ça évidemment en détail. Tiens, vous avez des infos aussi, je crois qu'on a des infos sur le futur tracé du Grand Prix d'Hanoï. Alors voilà, là s'il y a bien un circuit que les pilotes vont pas connaître, qu'ils soient vieux ou qu'ils soient jeunes, c'est celui-ci, le Grand Prix du Vietnam à partir de 2020, hein, Lucas.
Ouais, c'est un tracé un petit peu particulier, je sais pas ce que t'en penses Jean-Luc, une très très longue ligne droite, 1,5 km, quasiment on emprunte presque un rond-point, on fait quasiment un demi-tour et puis on repart. Il y a des sections un petit peu plus rapides. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Herman Tilke a voulu repartir sur la même base que Bakou et non pas sur la même que Monaco, puisque on sait que Monaco, il n'y a pas beaucoup de dépassements. C'est une course où le spectacle souvent est rare, mais c'est le charme de Monaco, c'est le glamour de Monaco. Donc on lui pardonne, alors que sur un autre circuit, on ne lui pardonnerait pas. Donc voilà, on part sur la base de Bakou pour essayer d'offrir du spectacle comme en 2017, comme en 2018, pas comme en 2016 et pas comme cette année où la course a été un petit peu morose, mais voilà, en tout cas c'est l'idée. Après on verra dans la pratique, pour l'instant c'est que des images de simulateurs qu'on a pu visionner et c'est toujours un petit peu difficile de se rendre compte réellement des choses, même si ce qu'on voit c'est que les murs sont très très proches comme en Azerbaïdjan.
Mmh. Jean-Luc, tu en penses quoi toi de tout ça?
Écoute, c'est un défi, hein. C'est un défi d'abord de créer un circuit avec deux tiers des routes qui sont des routes normales. Enfin, elles vont être surfacées, évidemment, avec l'environnement, etc., on s'en doute. Mais ça veut dire qu'on ne construit qu'un tiers véritablement du circuit, puis on viendra se greffer. Alors, j'ai le nom du quartier, c'est Nam Tu Liem, si vous connaissez la région de Hanoï. Donc, il y a des grandes lignes droites, comme l'a dit Lucas. C'est vrai que ça se rapproche en philosophie du circuit de Bakou, avec notamment 1,5 km de ligne droite, on devrait pouvoir dépasser. Et il y aura un stadium au bout, ça, ils ont prévu du spectacle, donc on groupera une bonne partie des 100 000 personnes à cet endroit-là. Voilà.
Bon, et on verra ça à partir de 2020, on a encore le temps, les amis. On va à 13h33 dans Motors, juste avant d'évoquer les 25 ans de la disparition d'Ayrton Senna, avec dans un instant notre invité au téléphone, Eric Saban, justement membre des Amis d'Ayrton, association qui perpétue le souvenir du triple champion du monde brésilien. Je vous donne des résultats du Grand Prix de moto, la moto 2 et la moto 3. Tu nous parlais de la victoire de Lorenzo Baldassari il y a quelques minutes devant Jorge Navarro et Augusto Fernandez, donc un Italien devant deux Espagnols en moto 2. Et bien ce sont deux Italiens sur le podium en moto 3, Nicolo Antonelli et Celestino Vietti, 1 et 3, et au milieu en deuxième position c'est Tatsuki Suzuki. Voilà, vous savez tout, et je vous rappelle également qu'à partir de 14h, eh bien il y aura le MotoGP à vivre sur RMC avec un Français en pole position, le plus jeune poleman de l'histoire justement du MotoGP, Fabio Quartararo, qui a réalisé le meilleur temps des essais qualificatifs hier à Jerez de la Frontera.
Si tu veux bien, excuse-moi Arnaud, pour rappeler que Nicolò Antonelli et Tatsuki Suzuki sont membres du team SIG 58, tu sais, de Marco Simoncelli, qui avait disparu en course. Et donc il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions, je peux te dire, à l'arrivée du Moto 3, à cause justement de cette victoire de ce team qui a été créé après la disparition de Marco Simoncelli.
Tiens, j'en profite également pour vous rappeler que ce week-end, on vous offre vos places pour le Grand Prix de moto au Mans, du 17 au 19 mai prochain. Profitez en illimité de la fan zone, des concerts, de tous les shows mécaniques, vos places en tribune pour rien loupé du programme de 3 jours du Grand Prix de moto au Mans. Et pour remporter vos places, vous envoyez Motors au 7 32 16. Je le disais il y a quelques instants, il y a 25 ans, le 1er mai 1994, 25 ans et 4 jours, l'accident d'Ayrton Senna à Imola, au lendemain justement de la disparition de notre pilote autrichien Roland Ratzenberger, la veille en essai. Pour en parler et rappeler aussi la mémoire et le souvenir justement du cador brésilien Ayrton Senna, nous sommes en ligne et en direct avec Eric Saban, membre des Amis d'Ayrton, association qui perpétue le souvenir du triple champion du monde brésilien. Bonjour Eric Saban.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous en direct dans l'émission Motors sur RMC. Je vous laisse avec Jean-Luc Roy.
Très bien, merci. Bonjour Eric. Je te remercie infiniment. d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours avec beaucoup d'émotion qu'on évoque évidemment la mémoire d'Ayrton. Alors je voulais déjà que tu me dises en quoi Ayrton, évidemment je le sais, je vais même rajouter si tu le permets un souvenir personnel qui me lie à lui, parce qu'on en a tous. En quoi Ayrton est-il différent des autres pilotes? Pourquoi cette passion que tu as toujours 25 ans après pour Ayrton Senna et qui a regroupé toutes ces personnes autour des amis d'Ayrton?
Écoute, moi j'aimais beaucoup le pilote qu'il avait, bien sûr, comme nous tous, mais j'aimais aussi l'homme qu'il était, parce que c'est vrai que il avait une très bonne éducation, il avait un respect pour ses adversaires, il était évidemment passionné par son métier, mais il voulait gagner, mais pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire pas en utilisant n'importe quel moyen. Quand je vois maintenant des pilotes que je ne nommerai pas, mais qui sont capables de faire en piste n'importe quelle exaction pour pouvoir arriver à leur fin, c'est tout le contraire d'Ayrton. Et comme je le disais l'autre jour, quand on en discutait, la Formule 1 ne sera plus jamais pareille depuis qu'Ayrton a disparu.
Ah, c'est évident. Alors, ce côté humain justement dont tu parlais, au-delà du pilote, bon, on va pas en faire un saint, hein, parce que c'est vrai que souvent, quelle que soit la personne, dans le monde du spectacle aussi, du cinéma, on voit ça tous les jours, des chanteurs, dès que quelqu'un disparaît, ça y est, c'est un saint. Ayrton n'était pas un saint, pour être clair, il était même rugueux en piste, hein, Eric, il faut le rappeler, mais tu as raison, il n'osait pas certaines manœuvres qu'on a vues, des manœuvres qui mettaient véritablement en danger la vie d'autres pilotes.
Mais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il gagnait, il aimait gagner, il avait la course dans le sang, il avait cette passion, mais il respectait ses adversaires. Il était capable du meilleur. Et le pire, on l'a vu simplement à Suzuka une seule fois. Il a voulu se faire justice lui-même. Il avait un grand sens de l'injustice, il détestait l'injustice, et je pense que ce qui a fait qu'il a pu donner à certains une image de pilote trop rugueux, c'est surtout cet accident de Suzuka où il a sorti Prost.
Ah, Prost,
mais c'est pas cette image d'Ayrton qu'on doit retenir. Je pense qu'on doit retenir l'image de l'homme qu'il était. Moi, je suis très attaché aussi à ce qu'il a fait, à ce que Viviane a fait ensuite, sa sœur Viviane a fait, c'est-à-dire réaliser le souhait de son frère en créant cette fondation qui est en aide encore maintenant à des millions de Brésiliens défavorisés. Ouais. Je dis pas des milliers, ce sont vraiment des millions. C'est un concept différent, cette association, de n'importe quelle association humanitaire, puisque il ne se contente pas d'apporter des fonds, de l'argent aux familles, mais les enfants sont pris en charge jusqu'à ce qu'ils trouvent un métier. Et ça, c'est un concept vraiment différent, comme le voulait Ayrton.
Oui, oui. Et puis il y avait le petit personnage de Seninha, hein, justement, qui est de son vivant, bien sûr, qui l'avait rendu célèbre. Un petit personnage de dessin animé sur lequel il s'appuyait. Et pareil, il aimait pas beaucoup en parler, lui, de son vivant, mais il consacrait une bonne partie de sa fortune à ça. Alors je sais que là aussi, l'alibi entre guillemets humanitaire de certains, il le sort tout le temps, mais Ayrton n'a jamais avancé derrière ce panneau-là.
C'est vrai, mais n'empêche que il disait qu'il ne pouvait pas vivre entouré d'un océan de pauvreté. Ça le dérangeait d'être cet homme connu au Brésil, aimé de tous, riche à millions, mais le fait de côtoyer la pauvreté au quotidien dans son pays, ça le gênait beaucoup.
Ouais, oui. Alors on va en venir au pilote, hein, parce que c'est quand même, il nous a magnétisé, c'est le peu de le dire. Magic Senna, c'est pas pour rien qu'on a trouvé ce surnom pour lui. J'allais dire seulement 3 titres de champion du monde. On va pas refaire les championnats, hein. Mais je crois que c'était le plus flamboyant peut-être chez lui. C'était évidemment les pole positions. Il a longtemps détenu le record avec 65. Et on a vu, tu t'en rappelles comme moi, sûrement Eric, Michael Schumacher pleurait le jour où il a égalé le nombre de pôles d'Ayrton Senna.
C'est vrai, je m'en souviens très bien. Mais en fait, le nombre de pôles, évidemment, c'était. Mais le nombre de titres, évidemment, je pense qu'il aurait pu en gagner beaucoup d'autres si c'était pas dû à Imola. Mais il était très talentueux. Je pense qu'il aurait battu Schumacher au volant de la Williams, et je pense que Schumacher aurait eu beaucoup moins de titres et Ayrton beaucoup plus s'il n'avait pas eu ce drame d'Imola. On peut toujours dire ça s'est passé comme ça, ça aurait pu se passer autrement, mais moi je suis convaincu que en matière de talent pur, il surpassait Schumacher. Schumacher a su fédérer l'équipe Ferrari autour de lui et arriver à des résultats, mais sur le plan du pilotage pur, vraiment ans, c'était Ayrton l'unique. Et à mon avis, les deux ou trois pilotes qui l'approchent sur le plan du pilotage pur, c'est bien sûr Lewis Hamilton, mais oui, aussi Alonso, qui est un pilote incomparable. Moi, je trouve beaucoup de similitudes entre Ayrton et Fernando Alonso. Et puis Robert Kubica, qui avant son accident, lui aussi faisait des miracles à bord de sa F1.
Ah oui, et puis on va rappeler ces 6 victoires à Monaco. Tiens, j'ai envie de demander à Lucas, qui doit toujours être avec nous, ce qu'il pense, lui, d'Ayrton Senna, puisqu'il est tout jeune. Alors nous, on l'a vu rouler, Ayrton, mais quelle image a-t-il du triple champion du monde brésilien et pourquoi est-il l'objet, on peut dire, de cette admiration?
Bah,
Toi, t'es
ma
pas
génération.
Né, hein,
non, moi, j'ai, moi je suis, ouais, je suis né au mois de juillet 94, donc un tout petit peu après sa mort. Ah, mais non, c'est des documentaires, c'est des vidéos, c'est Monaco en 1989, c'est Donington, c'est tout ça. En fait, c'est des souvenirs, c'est des vidéos qu'on a pu voir de ses exploits, que ce soit sur le sec, que ce soit sous la pluie, ses problèmes de boîte de vitesse où il sort de sa monoplace en pleurant et quasiment en train de s'évanouir. C'est des images qui marquent. Et puis après, c'est la façon dont les gens parlent de lui. Quand vous avez un Lewis Hamilton, quand vous avez un Fernando Alonso qui vous explique que sur un tour, c'était la référence ultime, et quand vous avez un pilote qui est capable de mettre 1,5 seconde en qualification à Alain Prost, faut quand même se rendre compte des choses. Alain Prost, c'est quand même pas le premier venu. Il est quand même quadruple champion du monde. Les écarts étaient colossaux. Voilà, Senna sur un tour, c'était la référence ultime. Et je pense que même Lewis Hamilton, qui a battu son record de pole position, ne pourra jamais s'approcher de l'écart qu'il avait pu mettre en qualification avec les autres pilotes.
Mais il y a cette dualité justement avec Prost aussi, qui fait qu'en France, certainement, on a quelque chose aussi avec Ayrton Senna.
Pour en avoir, oui.
Je pense que c'est quelque chose d'assez prégnant. Et c'est vrai que tu vois, moi, je suis de cette génération-là aussi. C'est le premier pilote dont on m'a parlé, justement Ayrton Senna, après Alain Prost, alors que pourtant Michael Schumacher était déjà dans quelques-unes de ses grandes œuvres.
Oui, mais Schumacher c'était différent. Il a pas eu vraiment de coéquipier peut-être à sa hauteur. C'est pas pareil. En fait, faut parler avec Alain Prost pour se rendre compte. Quand il vous parle de Senna, vous êtes pendu. Vous écoutez tout simplement ce qu'il vous dit, la façon dont il travaillait, la façon dont il analyser les choses, leur approche complètement différente de la course, mais au final deux talents complètement différents, mais qui avaient le même objectif, au final cette recherche de la victoire. Alors c'est vrai que l'approche d'Ayrton, c'était aller à fond en qualification peut-être, et Alain était peut-être plus réfléchi, mais au final ça a donné deux fabuleux champions.
Jean-Luc, une anecdote, je vous l'ai promis, elle va être très brève, je vous le promets, mais je pourrais en parler pendant des heures de ce moment. J'ai dû réaliser une bonne trentaine d'interviews d'Ayrton Senna à l'époque. J'ai eu cette chance et ce privilège. Il est toujours respectueux des journalistes. Il répondait vraiment aux questions. Il n'avait pas la langue de bois. Et moi, mon souvenir, ça doit être la 20e pole qu'il décroche sur le circuit d'Estoril avec la Lotus Renault. Vous en rappelez, John Player, je vais citer le nom, noir et or, magnifique. Il s'installe à son stand et à l'époque, nous journalistes, on pouvait être dans le stand. Donc il revient dans le stand après la pole et il sort à peine de la voiture. Il enlève le casque, je lui dis, tu veux répondre à mes questions? Il me dit, ok. Avant les ingénieurs, avant Gérard du Carrouge qui arrive pour le féliciter, et il me raconte son tour de qualif, mais quelque chose, j'en ai à chaque fois les poils qui se dressent, vraiment, il était dans un autre monde. Il m'a décrit tous les détails de ce tour de qualif, comme il l'a fait à Gérard du Carrouge après, et pour moi c'est resté ça, Ayrton Senna. Je sais pas ce que t'en penses Eric, mais c'est quelqu'un qui était illuminé, vraiment, qui était de l'intérieur, il avait un autre regard.
Ah ben bien sûr, il était dans son monde. Quand il était dans son baquet, quand il faisait son tour qualif, et même quand il préparait son tour qualif, on l'imaginait concentré sur chaque virage, les rapports de boîte de vitesse. Tout ça, c'était Ayrton. Et alors, autre chose concernant Ayrton, c'est le fait que je me souviens que il y avait eu, je crois que c'est Eric Comas et Martin Donnelly qui ont été accidentés pendant des essais, je crois.
Comas à Spa.
Voilà, exactement. Et à ce moment-là, il est sorti de sa voiture, il a été tout de suite voir ce qui se passait, parce que la voiture de Donnelly, je crois, risquait de
alors, non, Donnelly, c'était Arrérez de la Frontera, précisément.
En pleine séance qualif, il a pas hésité à aller à courir avant même que les commissaires ne puissent intervenir sur la voiture de Donnelly pour essayer de défaire son harnais de sécurité et de le sortir de sa voiture. Enfin, tout ça, c'est des choses vraiment qui font que il n'y a pas que le pilote, il y a aussi l'homme qu'il était, et c'est vrai que j'ai pas retrouvé d'équivalent, et je ne sais pas si la Formule 1 retrouvera un jour un pilote aussi charismatique, aussi doué et aussi humain. Voilà.
Merci beaucoup Eric.
Merci Eric Sabon d'avoir été en direct sur RMC, merci d'avoir évoqué le souvenir justement d'Ayrton Senna, et très bonne journée à vous.
Merci à vous, au revoir.
RMC Motors, Arnaud Souk, Jean Lecroix.
C'est la dernière ligne droite de Motors, on est ensemble jusqu'à 14h. L'équipe de l'Intégral Sport arrivera ensuite, notamment pour vous faire vivre la fin du match entre Lyon et l'Union Bordeaux-Bègles en rugby, toujours 14-10 en faveur des Lyonnais. On y retourne dans un instant. En attendant, c'est Radio Paddock.
RMC Motors
World Champion. Oh my god, I can't believe it. Thank you so much guys.
Radio Paddock
avec Lucas Vinoy qui est toujours à nos côtés. Jean-Luc, je sais qu'il a plein de choses à dire. Évidemment, il est pas tout le temps là pour Radio Paddock, donc quand il est là, il en profite. Hein. Je peux te dire qu'il a des feuilles pleines de notes.
Il a raison.
C'est incroyable. Tiens, Lucas voulait nous parler avant tout du championnat du monde d'endurance et des 6 heures de Spa en Belgique. Alors moi j'ai pas vu la course, mais tu m'as vendu ça comme la course de l'année.
Bah, Lucas. C'était incroyable. 3 épisodes neigeux à Spa à ce moment-là de l'année. Ouais. Début mai, peut-être 55 voitures sous la neige dans le Raidillon. On sait que le Raidillon, c'est un des passages les plus populaires, les plus connus et les plus mythiques du sport automobile, et le faire sous la neige, faut quand même y aller, faut être courageux. Et puis la victoire d'Alonso, Buemi et Nakajima qui ont profité des petits malheurs de la Toyota numéro 7, de la Toyota sœur, et du coup Alonso, Buemi et Nakajima, Jean-Luc, qui se rapprochent considérablement du titre de champion du monde d'endurance.
Et oui, effectivement, c'était pas prévu comme ça entre guillemets au départ, hein, parce que l'autre Toyota était plus performante, celle qui porte le numéro 7. Et puis en fait, ils ont été affectés par un problème de capteur, semble-t-il, autour de la mi-course. Mais oui, ce que tu rappelais, c'est incroyable, c'est que Spa-Francorchamps, cette région des Ardennes, c'est vraiment les 4 saisons en un jour. Là, c'est même pas comme en Bretagne où c'est en une semaine. Là, c'est en un jour et même en 6 heures, puisque comme tu le dis, de la neige, bon évidemment.
C'est pas une première dans la région, hein, de la neige,
Pas
de là de l'année. Hein.
Le spécialiste du vélo va vous le dire.
Mais oui, parce qu'il y a la course Liège-Bastogne-Liège, hein, qui passe par là, et justement, Liège-Bastogne-Liège, il y a quelques années, Bernard Hinault l'avait gagné sous la neige, justement. Bref, c'était la petite parenthèse.
Ah ben c'est un circuit incroyable, déjà il fait 7 km de long, il est extrêmement vallonné, il est au milieu des forêts, et puis je rappelle toujours cette appellation qui vient des Belges, hein. C'est le pot de chambre de l'Europe, c'est comme ça qu'ils l'appellent, c'est-à-dire qu'il se déverse énormément d'eau, et tu parlais de variations, bah écoute, j'ai eu le plaisir de faire les 24 heures de Spa là-dessus en 90, et je peux te dire qu'on n'avait pas vu la neige parce que c'est en juillet, mais presque, on avait tout vu.
Tu nous emmènes la prochaine fois que tu fais les 24 heures de Spa, Lucas et moi?
On est très bons apprentis, Jean-Luc.
Hein.
C'était une autre époque. J'ai quand même rappelé. C'était en 90. Mais c'est un souvenir formidable. C'est un circuit qui est incroyable. Et c'est un circuit où il y a une passion terrible aussi autour. Les spectateurs, je peux te dire, ils avaient dû sortir les passe-montagnes et les moonboots là, mais ils devaient rester présents au bord de la piste parce que c'est vrai qu'il y a eu cet affrontement. Alors Toyota l'emporte et fait un pas de plus vers le titre de champion du monde constructeur qui est déjà acquis. Ça c'est fait. Après, on attend le titre pilote évidemment pour les trois, hein, Buemi, Nakajima et Alonso. Je crois qu'il faut qu'il termine au moins quatrième, hein, Lucas, si je ne m'abuse.
Il me semble que c'est cela. Et puis Alonso qui arrêtera donc l'endurance à l'issue des 24 heures du Mans.
Bon, je dois concéder, puisqu'on parlait de nos exploits respectifs, que Lucas m'a mis 2 secondes l'autre jour sur un tour au karting, hein, sur un circuit d'un kilomètre. Hein. Il est très très fort. Lucas qui voulait nous parler du championnat du monde des rallyes, avec un énorme transfert à venir. En tout cas, c'est ce que tu nous annonces.
Qui pourrait avoir lieu, en effet. C'est Ott Tanak qui est le leader aujourd'hui de Toyota, qui est troisième du classement général du championnat du monde des rallyes avec 82 points, qui est un peu distancé par Thierry Neuville et Sébastien Ogier qui comptent respectivement 110 et 100 points. Et Jean-Luc, tout simplement, c'est M Sport, c'est Malcolm Wilson qui a déclaré vouloir attirer dans ses rangs le pilote estonien Ott Tanak, qu'on connaît, qui a un talent complètement fou. On sait que Malcolm Wilson a perdu Sébastien Ogier qui est parti pour Citroën, donc il veut récupérer un top pilote pour remettre son écurie aux avant-postes.
Alors ça, évidemment, ce sera un transfert absolument énorme. Je pense qu'il a dû trouver un financement, parce que là, on va pas tout ranger derrière ça.
Le salaire d'Ott Tanak est élevé chez Toyota.
Et oui, je pense que là, pour s'aligner et faire venir un top niveau, mais il le sait mieux que personne, effectivement, Malcolm Wilson, c'est le talent des pilotes avec le matériel qu'on leur donne évidemment, mais qui fait la différence. Et il l'a vu avec Sébastien Ogier, hein, il l'a vu, et Julien Ingrassia, il l'a vu pendant deux saisons, puisqu'ils ont été capables, avec une machine globalement inférieure à celle de leurs adversaires, de décrocher deux titres. Donc il a bien compris que pour revenir aux avant-postes, pour son équipe et pour Ford, alors peut-être que Ford va enfin casser sa tirelire et veut dire officiellement en rallye, revenir, eh bien oui, ça ce sera un transfert de taille. Et puis attends, la saison n'est pas terminée, il est toujours en lice pour le titre de champion du monde 2019 avec Neuville et avec Ogier. Ça va encore nous valoir de superbes batailles jusqu'au bout de la saison.
Quelque chose à ajouter, Lucas, là-dessus? Non, t'as pas ton micro.
Après seulement quatre rallyes, comme on le disait, la lutte est à couteau tiré entre ces trois-là, puisque Thierry Neuville compte 110 points, Sébastien Ogier 100, Otanac 82. Voilà, quatre rallyes, c'est toujours aussi serré ce championnat du monde. Peut-être qu'il va nous emmener encore à l'ultime manche en Australie pour décider du titre. En tout cas, c'est toujours très très agréable de suivre ce championnat où les pilotes, c'est vrai, ont une part extrêmement importante.
Très bien, on passe à notre dernière info du jour, la Formule 1. D'accord. Louis Amar arrive en studio. Ouais,
forcément quand Louis Amar arrive, c'est la foire.
Voilà, l'intégration arrive dans quelques instants. Juste, si tu permets, Louis, quand même, qu'on finisse notre émission.
Non, je vous en prie. Merci.
Il va vouloir.
Il est
jaloux.
Les accords Concorde, tu voulais nous parler encore une fois des accords Concorde.
Les accords, c'est notre marronnier dans Motor.
Formule 1.
Voilà.
Marronnier Formule 1.
Je vous laisse 2 minutes.
C'est pas le bon mot.
Non, oui, on parle d'une nouvelle publication, cette fois-ci en octobre, pour décider du règlement en 2021. Alors le problème, c'est que si on le publie trop tôt, ça avantage les grosses écuries, Jean-Luc, puisqu'elles ont le temps de tout développer. Mais si on le publie trop tard, ça avantage aussi les grosses écuries, puisque un laps de temps réduit, forcément, il faut plus de personnel, plus de petites mains, et les grosses écuries en disposent davantage que les petites. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue sur ces fameux accords Concorde.
Complètement. Allez, un petit coup de gueule, vous aimez ça, un petit coup de volant, tiens, dans Motors.
Ouais, bah,
ça tourne au ridicule. Moi, je pèse les mots. D'ailleurs, c'est ce que certains team managers prétendent en privé. C'est grotesque. Là, maintenant, on avait promis que les accords Concorde seraient dévoilés. Alors, toutes les dates sont repoussées régulièrement. On parle de mai, on parle de juin, puis t'as raison, on parle d'octobre. Tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord, hein. Les intérêts des grosses équipes ne vont pas dans le même sens que ceux des petites, pour les raisons que tu viens d'évoquer. Mais on s'en fout, je dirais. Il faut établir un règlement et puis l'imposer, et après tout le monde travaillera en conséquence. Là, ça devient grotesque. On parle quand même d'accords qui devraient réglementer la Formule 1 de 2021 à 2030. Ce seraient des accords pour 9 ans. Concorde, c'est parce que c'était signé Place de la Concorde, et c'était à l'issue de débats agités à l'époque entre Jean-Marie Balestre, président de la FIA, et Bernie Ecclestone, qui représentait les écuries. On manque un peu de grosses têtes pensantes, et pourtant on a quelqu'un de très compétent comme Ross Brawn maintenant, qui est auprès de Liberty Media. Je ne sais pas ce qui se passe, moi non plus. Bon, j'avoue que là je suis un peu atterré.
Jean-Luc, voilà, garde de l'influx, parce que dans 3 minutes il y a un Grand Prix qui pour le coup nous intéresse forcément. C'est le MotoGP avec la pole du français Quartararo. Faut-il le rappeler? Merci Jean-Luc.